On commence l'émission avec l'autrice Maude Neuve-Villeneuve qui vient nous parler du livre Les différences invisibles, qui est son nouveau livre sorti en 2025. Bonjour Maude.
Bonjour.
Donc, vous venez nous parler d'un livre qui s'appelle Les différences invisibles. Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui se trouve dans ce livre-là?
Oui, bien, c'est un livre qui est en fait publié dans la collection Radar aux éditions Éco-Société. Puis la collection Radar, c'est une collection d'essais destinée aux ados. Fait qu'en fait, c'est comme 15 ans et plus, là. Je pense que les adultes peuvent y trouver leur compte absolument aussi. Moi, j'aime bien lire les livres de la collection Radar. Donc, c'est un livre qui parle des handicaps invisibles, la neurodivergence, en fait, là.
Et vous êtes autrice, donc, depuis longtemps. Vous avez sorti plusieurs livres, dont trois romans aux éditions de ta mère. Et vous avez publié plusieurs nouvelles dans différents collectifs. Qu'est-ce qui est différent pour ce livre-là que vous venez de sortir?
Ce qui est différent, c'est que c'est un essai. Oui. C'est pas un genre avec lequel je suis tant habituée que ça. J'ai écrit un court essai déjà une fois dans un collectif, mais c'est mon premier essai où j'écris toute seule.
Et donc, vous écrivez surtout de la fiction jusqu'à aujourd'hui, alors que là, ça ressemble un peu plus à votre... Ça se colle un peu plus sur votre quotidien dans ce livre-là, parce que vous avez vous-même là, certains défis par rapport aux handicaps invisibles.
Oui, exactement. C'est ça. Cette fois-ci, ça part de mon expérience personnelle. Là. Je suis personnellement autiste de niveau 1. J'ai un TDAH, puis un haut potentiel intellectuel. Fait que tout ça ensemble se mélange pour créer un beau cocktail de neurodivergence et de défis aussi.
Et qu'est-ce que votre livre apporte? Parce qu'il y a quand même un offre actuelle qui est important par rapport au TDAH, à l'autisme, beaucoup, on en parle beaucoup, il y a plusieurs livres qui sont sortis par rapport à ça. Qu'est-ce que votre livre apporte de différent selon vous?
C'est que c'est vraiment ciblé pour les ados, en fait. Il y a peu de livres qui sont faits pour les ados sur ces sujets-là, où en fait, c'est souvent des guides qui s'adressent peut-être un peu plus là, à un profil en particulier. Moi, je voulais vraiment parler des expériences vécues par des jeunes que j'ai interviewés, de mon expérience personnelle à moi, mais de brosser assez large pour que les ados neurotypiques et neurodivergents puissent en apprendre et soit se reconnaître ou apprendre à mieux connaître leurs amis neurodivergents.
Est-ce que c'est encore un défi de faire connaître la neurodivergence? On en parle beaucoup, j'ai l'impression, dans les dernières années. C'est comme un sujet un peu à la mode. Par contre, est-ce que vraiment la société québécoise est rendue plus inclusive par rapport à ça ou est-ce qu'on a encore des défis?
Bien, je pense qu'on est plus inclusif, certainement, mais je pense que beaucoup d'intervenants, des profs, des techniciens d'éducation spécialisée, tout ça, sont moins outillés sur les dernières, disons, découvertes, la recherche, la dernière version du DSM, là, le guide diagnostique. Puis je pense que pour travailler avec des jeunes neurodivergents, faut aussi essayer d'être capable de vulgariser. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que mon livre amène pour ce public-là, mettons-le.
Oui, je confirme, votre livre vulgarise très bien, je l'ai lu, puis effectivement, c'est quand même très facile à comprendre, c'est peut-être plus différent des livres qu'on voit dans ce type-là, où on parle avec un langage qui est très scientifique ou très médical, alors que vous parliez beaucoup plus peut-être au niveau personnel, puis avec des phrases courtes, des chapitres courts également. J'imagine que ça, c'était un but là, pour vous de faire quelque chose qui était plus accessible.
Oui, exactement, parce que j'avais pas la prétention de faire un essai scientifique. Je voulais pas que ce soit médical, justement, comme livre. Je pense que, tu sais, ce que j'amène, c'est vraiment plus dans l'expérience vécu.
Est-ce qu'on a encore une vision trop médicale par rapport aux différences que vous nommez, donc autisme, il y a TDAH, il y a douance, peut-être moins avec la douance, parce que la douance amène quand même des avantages considérables et peut-être un peu moins de défis, quoi qu'il y en a, mais est-ce qu'on est encore trop médical dans notre vision au Québec de ces différences-là?
Oui, du côté des troubles, justement, ce qu'on appelle des troubles, je pense qu'on est encore très très médical. Je pense que si on pouvait parler de neurodiversité, comme des profils distincts, des différences plutôt que des déficits, ça serait intéressant.
Oui, parce qu'on voit ça comme étant, vous l'avez dit, un déficit, donc un manque de quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, donc qui sort de la normalité, alors que dans les faits, il faudrait apprendre à justement normaliser des profils qui sont différents.
Exactement, oui, c'est ça. Donc, cette idée que, oui, il y a la normalité, il y a la norme dans le sens de la majorité, mais c'est pas parce que des gens s'éloignent de cette norme-là qu'il leur manque forcément quelque chose. Des fois, ils font juste fonctionner différemment.
Et il y a aussi peut-être l'idée qu'il faut soigner ces gens-là, donc et ramener la norme. Et vous en parlez un petit peu dans votre livre, et on en a parlé à cette émission aussi à quelques reprises, mais l'idée d'espèce de thérapie où on veut littéralement forcer, surtout les enfants, forcer un enfant à revenir dans le cadre et à revenir dans le moule et à l'emmener à avoir des comportements qu'on juge plus acceptables et à ne pas montrer de comportements qui sont vus comme étant hors normes.
Oui, on va pousser beaucoup, en fait, les enfants puis les jeunes à camoufler leurs traits neurodivergent, alors que ça, c'est nocif. On le sait là maintenant que c'est nocif sur la santé mentale.
Donc, en fait, on veut... Je pense que dans la plupart des cas, là, ça vient d'une idée qui est positive, mais je veux dire de bonnes intentions, que l'enfant soit accepté dans un milieu qui est plus neuronormatif. Par contre, effectivement, vous l'avez dit, donc on se rend compte à quel point pour l'enfant, pour sa santé mentale, c'est difficile de camoufler autant, puis ça devient ça cause des problèmes donc de santé mentale à plus long terme là, pour ces enfants-là.
Oui, exactement. Puis je pense que, tu sais, quand on fait ça, c'est vraiment parce qu'on veut les aider à s'intégrer à la société puis à pas être rejetés puis tout
oui.
ça, là.
On veut éviter, c'est ça, qu'ils subissent un rejet particulièrement bon, de la part des autres enfants, j'imagine, là, parce que on sait tous là, comment ça peut se vivre dans une cour d'école là, pour,
oui.
pour un enfant qui est différent. Donc, on veut leur éviter cette souffrance-là, ou du moins, c'est comme ça que je le comprends. Par contre, on crée d'autres problèmes qui vont impacter sa vie, puis qui vont le pousser donc, à avoir des problèmes et à devoir éventuellement, peut-être dans certains cas, même consulter ou avoir des problèmes médicaux plus tard. Là.
Oui, c'est ça. Donc, finalement, on crée d'autres problèmes. Fait que je pense que, tu sais, peut-être qu'en sensibilisant davantage les gens à la différence, on aurait moins besoin de pousser à camoufler pour être accepté.
Mais est-ce que c'est pas aussi ce que j'entends, c'est de dire, est-ce qu'on change l'enfant ou est-ce qu'on change la société? T'sais, peut-être que c'est pas l'enfant qu'il faut changer, mais bien la société. Ça me fait penser un peu quand on dit, par exemple, tu sais, quand une plante ne pousse pas bien, on regarde l'environnement qui est autour et on trouve le problème dans l'environnement plutôt que le problème sur la plante. C'est un peu la même chose avec les enfants, c'est-à-dire que au lieu de focusser sur l'enfant, il faut réfléchir à l'environnement qui est autour.
Oui, exactement. Puis c'est un peu l'objectif avec le livre là. Tu sais, c'est vraiment de donner des outils à l'environnement aussi, ben aux personnes neurodivergentes pour adapter leur environnement, mais aussi aux gens qui les côtoient pour s'adapter aux personnes neurodivergentes, pour que finalement, tu sais, chacun fasse un peu son bout de chemin pour s'adapter à l'autre, puis qu'on puisse travailler ensemble tout le monde. T'sais.
Est-ce que vous voyez une différence, je l'ai dit, dans les dernières années, on en parle beaucoup. Est-ce que les gens vous semblent plus éduqués, plus sensibles et plus peut-être plus patients, plus ouverts à la différence maintenant qu'on en parle beaucoup plus?
Je pense que oui, mais je pense que ça a deux effets potentiels. Soit les gens sont plus ouverts, plus éduqués, plus sensibles, soit ils ont l'impression que c'est un effet de mode puis ça leur tape sur les nerfs.
Ah oh oui, OK.
Donc, il y a des gens qui sont comme « Ah oui, mais ça, c'est juste des étiquettes pour être à la mode », alors que d'autres vont dire « Ah oui, OK, j'ai pris le temps d'écouter puis d'apprendre. Puis... »
Oui, qui rejettent en fait l'idée d'un diagnostic comme quoi puis ces enfants-là, ces personnes-là n'auraient pas de besoins particuliers, mais font ça pour être à la mode ou auraient reçu, entre guillemets, de faux diagnostics parce que c'est à la mode puis qu'on fait pas confiance finalement aux personnes, aux spécialistes qui font ces diagnostics-là, alors que c'est quand même difficile d'avoir un diagnostic et ça prend des gens qui sont formés en conséquence. Là.
Oui, oui, puis c'est tout un parcours, là, bien, surtout comme adulte pour avoir un diagnostic, mais même comme enfant, c'est vraiment beaucoup d'étapes Puis si on rencontre plusieurs spécialistes, puis donc ça se fait pas sur le coin d'une table.
Est-ce qu'il y a aussi, tu sais, on le voit depuis la COVID, entre autres, un espèce de non reconnaissance de la science ou de pas faire confiance à la science. On a comme tout un aile qui s'est développé par rapport à ça. Est-ce que c'est ça aussi qui ressort selon vous?
Ah, c'est intéressant. Je l'avais pas vu comme ça. Mais ça se peut, effectivement, que cette méfiance-là s'étende au diagnostic de neurodivergence.
Ça serait à voir. Évidemment, je dis ça, voilà, c'est une idée qui me vient, mais je ne suis pas spécialiste de la question. Ça serait une question à pousser. Pour revenir à votre livre, pour ceux et celles qui sont donc intéressés à connaître un peu plus sur les différences invisibles, où est-ce qu'on peut se procurer votre livre?
Il est disponible dans toutes les librairies, donc distribué en Europe aussi, mais donc au Québec, partout où on vend des livres qui n'est pas un Jean Coutu.
Ah, oui, bon point. On ne le trouvera pas chez Jean Coutu.
Non, c'est ça.
Donc, c'est pour les monsieur et dames qui aiment beaucoup les Jean Coutu, j'imagine qu'ils sont très déçus, mais sinon, on va aller ailleurs. Ça va, on va s'adapter à ça. Et de votre côté, en tant qu'autrice, en tant que vous êtes également là, professeur dans un cégep, donc en littérature, quels sont vos futurs projets?
En ce moment, j'ai un album jeunesse qui est en train d'être illustré, que j'ai coécrit avec Maxime Raymond, qui est le directeur littéraire aux éditions de ta mère, qui est aussi mon mari. Voilà, on a écrit un livre ensemble. Ça, c'est le prochain qui s'en vient.
C'est quand même un beau projet de couple. Est-ce qu'on retourne à ce moment-là vers quelque chose qui ressemble plus à ce que vous faisiez dans le genre littéraire d'avant? Ou est-ce qu'on...
Oui, c'est de la fiction. C'est un album qui parle de la radio, en fait.
Oh.
Oui. Ça met en scène une petite fille qui aime beaucoup la radio.
Comme moi.
Exactement.
Ça doit être moi, Maud, qui vous a inspiré ça quand on s'est vu là, pour notre balado, parce que vous avez fait partie de la saison 1 du balado, puis toi, ta journée. On avait eu une quand même une longue conversation, 60 minutes, là, oui. Par rapport aux différences et à votre parcours qui est quand même singulier parce que vous avez été diagnostiqué à l'âge adulte avec tous les défis que ça comporte. Pour ceux qui n'auraient pas écouté, le balado est disponible sur le site de Canal M. Mais oui, donc, on a hâte de voir ce qui va arriver avec votre livre que vous avez écrit donc et illustré avec votre mari. Et j'imagine que sinon, au niveau de l'enseignement universitaire, vous aurez quelques belles sessions qui vont être remplies de projets avec vos étudiants.
Je suis aussi prof ressource au service d'aide et d'accueil et d'inclusion pour les étudiants en situation de handicap. Donc, je travaille pour le tutorat adapté pour ces étudiants-là.
Donc, vous vous donnez quand même comme mission de mieux... je vais pas parler pour vous, en fait, mais vous sembliez vous donner comme mission de mieux intégrer les personnes qui ont des difficultés ou qui ont des différences tant dans la société que dans le milieu scolaire.
Oui, vraiment. Je pense que c'est un objectif personnel.
Ben c'est super. En fait, je pense que c'est une façon, puis vous le dites dans votre livre, hein, d'emmener du positif dans tout ça, puis de changer quelque chose qui est vu comme une faiblesse, comme un manque, vers quelque chose qui est positif, puis qui peut apporter à la société. Donc, je pense que c'est une belle façon de voir ça.
Mais merci.
Maud Neveu-Villeneuve, vous êtes donc autrice et vous venez de sortir en 2025 le livre « Les différences invisibles » aux éditions Éco-Société. Donc, pour ceux que ça intéresse, le livre est disponible en ce moment et on attend de voir vos futurs projets en tant qu'autrice et d'autres projets peut-être autour de la culture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.